Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouzimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Dans le cadre des luttes contre le phénomène Kuluna et autres délinquances urbaines à Kinshasa et ailleurs, la police congolaise, nationale congolaise, avait décidé il y a quelques mois de se débarrasser des grandes villes de véhicules abandonnés sur les grandes artères et chaussées. Selon le colonel Piero Manamputu, porte-parole de la police, ces véhicules abandonnés et transformés en lieu d'habitation et de retranchement de certains bandits urbains devraient être évacués. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous pouvez vous joindre à nous au 081 890 49 69 pour commenter ce sujet en direct, mais également déposer votre commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Jir Lungembo est à la réalisation de ce magazine avec Miko Kalambay. Alain Goy est à la mise à nom des Piro et la Meiji. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Meiji.
Vous êtes nombreux à avoir commenté ces sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Outre l'évacuation des véhicules abandonnés, plusieurs d'entre vous reviennent sur la page Facebook sur d'autres mesures que la police devrait prendre pour accompagner la lutte contre la criminalité. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio, comme je le disais tout à l'heure, le colonel Piero Manamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Mon colonel, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et surtout, merci d'être disponible chaque fois quand nous avons besoin de la police.
Aussi, c'est mon travail de le faire.
C'est un plaisir pour nous. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec cette mesure qui entrait dans le cadre d'autres mesures pour lutter contre le banditisme et la criminalité urbaine?
Et voilà, cela a fait un souci de l'autorité politico-administrative. Nous avions pensé à notre tutelle, à la personne de son Excellence, M. le Vice-Premier ministre, M. l'Intérieur et Sécurité, qui il n'y a pas assez longtemps, le samedi passé, nous a réunis pour que nous puissions évaluer ensemble, n'est-ce pas, les différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la recrudescence de la criminalité dans les grandes agglomérations. Et voilà, et lors de cette séance, quelques mesures ont été prises, entre autres celles dont nous évoquons aujourd'hui en rapport avec la thématique de l'émission, mais il y a eu en dehors de cela certaines mesures qui ont été prises, notamment pour le cadre spécifique de la vie provinciale de Kinshasa, c'est d'actualiser la cartographie des écuries Kuluna pour savoir exactement si parmi les anciennes écuries il y a d'autres qui ont vu les jours. Il fallait les répertorier et savoir exactement où les localiser. Et il fallait procéder, n'est-ce pas, aussi à l'assainissement des lieux de retranchement de Kuluna et autres échegués par l'opération d'évacuation de garages pirates et pourquoi pas des véhicules abandonnés sur la chaussée et descendre sur le terrain pour faire de projections tendant à conduire l'autorité à trouver la possibilité d'inventorier tout ce qu'il y a comme baleiniens et autres embarcations servant pour le transport fluvial des passagers ou des marchandises qui ont été abandonnées tout le long de beach privés. Et puis, il y avait aussi, entre autres comme mesures prises, l'interdiction à circuler des véhicules à plaque d'immatriculation bâchée, comme sans plaque d'immatriculation, et pourquoi pas les plaques d'immatriculation de couleur bleue. Parce que maintenant, ce sont des plaques d'immatriculation de couleur noire qui sont d'actualité. Et des véhicules avec gyrophare, avec sirène. Et tout ceci, c'est pour éviter la confusion sur la chaussée. Et entre autres, comme mesure qui a été prise, c'est pratiquement la récupération des éléments de police détachés auprès des personnes morales, physiques, privées. pour renflouer les commissariats et sous-commissariats de police en effectif, au besoin d'augmenter leur capacité opérationnelle. Mmh. Et donc, la réunion avec le responsable de gardiennage est prévue pour le mercredi prochain pour traiter des questions, chercher à leur donner juste une quantité qu'ils pourront garder, mmh. et le reste, nous allons le récupérer pour le reverser au niveau de la territoriale. Parce qu'au niveau de sous-commissariat et commissariat de police, il a été remarqué qu'il y a un problème d'effectif. Quand vous arrivez dans un sous-commissariat, il n'y a pas assez d'effectifs. Lorsque il faut aller secourir une population en danger ou des personnes qui appellent à l'aide, alors ce qui a fait que maintenant, la décision qui a été prise, c'est de récupérer les policiers qui sont dans en détachement. Mmh. Et puis, il fallait maintenant répertorier les lieux à forte criminalité et implanter des escadrons mobiles d'intervention. Oui, ce sont des escadrons qui seront là en permanence, qui vont se relayer après un mois, on viendra les relayer, mm-hmm. pour que, et quand les sous-commissariats de police et les commissaires de police prennent du retard dans l'intervention, et comme ils ont la mobilité sur place, c'est d'intervenir rapidement et de sécuriser la personne. Mm-hmm. Et puis, on a parlé aussi de la configuration topographique des faux bureaux 2. Et les participants ont eu avec précision les différents endroits où on les retrouve facilement. Et les lieux de prédilection, on a dit qu'on les retrouvait facilement au niveau de rond-point Gaba, rond-point Victoire, Matadi Kibala, Pascal, entrée Bekatef, Njoku, Alupen, Kingabwa, Isam et les longs des Beach. C'est-à-dire que c'est des faux agents de renseignement qui sont friands des téléphone portable de Trouville et sa coche. Ils ne veulent pas le voir passer. C'est vraiment des personnes qui ont insécurisé la population. Mm-hmm. Voilà comment, dans cette réunion, il était décidé de le traquer. La police va le traquer incessamment. Il demandait à la population, n'est-ce pas, de chaque fois qu'ils sont en face de ces personnes, de nous signaler pour que nous venions les happer. Et pour les autres agglomérations, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avait ordonné au gouverneur de donner des moyens conséquents aux commissaires provinciaux pour lutter efficacement contre, n'est-ce pas, la recrudescence de ces phénomènes de criminalité.
Mm-hmm. Alors, si nous revenons.
Je termine pour dire que tout ceci, parce qu'en partie aussi la criminalité, et parmi les criminels qui insécurisent la population la nuit, on a aussi cité les hommes en uniforme. Et donc, voyez-vous, ceux qui sont, n'est-ce pas, en train de sécuriser la population, on a parlé aussi des hommes en uniforme et qui sont en divagation. Voilà pourquoi les patrouilles mixtes entre la police militaire des différentes régions militaires ainsi que les éléments de la présence congolaise ont été envisagés et souhaités.
Alors, si nous revenons à la question d'évacuation de ces véhicules qui sont considérés comme les lieux de retrait de bandits, le travail avait déjà commencé, mais est-ce qu'aujourd'hui la police continue à évacuer ces véhicules abandonnés, quand bien même les gens se sont plaints aussi que les policiers ont pu embarquer même des véhicules qui n'étaient pas abandonnés?
Oui, je le sais. Mais avant d'arriver là, je voudrais qu'on sache, peut-être les gens diront que nous sommes un peu en dehors de nos missions. Nous touchons un peu à tout, mais je voudrais seulement vous dire que parmi les missions de la police, nous avons les missions ordinaires et qui s'exercent dans le cadre de nos activités quotidiennes. Hein. Et c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de prévenir la survenance des troubles à l'ordre public, de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et de déférer les auteurs devant l'autorité compétente. Et il y a les missions extraordinaires, ce sont des missions qui s'exercent en lieu, c'est-à-dire ils ont lieu en vertu, n'est-ce pas, d'une réquisition d'une autorité politico-administrative ou l'autorité judiciaire. Et il y a les missions spéciales qui, généralement, sont exécutées à titre de circonstances ou de suppléances, d'appui ou de concours et à d'autres services. Mais puisque la thématique prévue pour cette émission nous appelle, n'est-ce pas, à décortiquer une des missions dans les missions ordinaires. nous avons parlé de la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique. C'est une mission qui se retrouve dans les missions ordinaires, les missions quotidiennes
de la police.
Donc, si je vous dis, vous avez, dans les missions, nous avons dit que nous avions, dans nos missions, nous léguées par la Constitution, c'est de prévenir la surveillance des troubles à l'ordre public et les infractions, de les constater si on n'arrivait pas à le prendre à la source dans la prévention. Lorsque nous avons raté, n'est-ce pas, de le bloquer à l'émergence et dès qu'ils sortent en lieu place publique pour maintenant énerver les dispositions de la loi pénale, là, ça devient une infraction et nous devons le réprimer. Alors là, nous saisissons le président auteur, nous constatons l'infraction et nous le déférons devant l'officier du ministère public. Mais parmi ces missions-là ordinaires, dont il y a le renseignement général, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la violence liée aux gens, la surveillance et la protection de l'enfant, la sécurité routière, des voies de communication et des transports, la surveillance physique des frontières, l'appartissement secours de la population en cas de catastrophe ou de sinistre, il y a la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique qui constitue aujourd'hui notre sujet du jour.
C'est-à-dire que le fait d'évacuer ces véhicules abandonnés, c'est aussi dans la responsabilité traditionnelle de la police.
Ah oui.
Pour maintenir la salubrité et par ricochet, ça permet aussi de lutter contre la criminalité.
Ah oui. Parce que vous savez, lorsqu'on veut parler de la salubrité dans un pays, cela renvoie pratiquement ce sont des mesures de salubrité qu'il faut prendre. On voudrait que la ville soit propre et on voudrait que la ville soit aérée et que la ville soit débarrassée, n'est-ce pas, de certaines épaves qui empêchent, n'est-ce pas, soit la bonne circulation et soit qui servent des lieux
d'abri, des refuges d'abri des criminels.
Voilà. C'est vraiment dans nos missions.
Ok, on revient à vous, le temps d'écouter les auditeurs, trois auditeurs déjà en ligne. Marcel est à Luisa, au Kassai Central, Franck est à Vienne, Alphonse à Arou. Marcel, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot Elamenji. Merci, c'est Marcel Didier Passois à Luisa. Je m'en vais pour saluer d'abord l'invité, monsieur le colonel Pierrot Mwanamputu, surtout qu'il est au four et au moulin. Vraiment, son souci, c'est la sécurité du territoire national et aussi surtout de la ville-province de Kinshasa. Je m'en vais analyser par rapport à sa décision prise. Je m'en vais analyser comme suite. Il faut dire, monsieur Pierrot Elamenji, qu'il faut prendre les taureaux par les cornes, dit-on. La décision de monsieur Pierrot Mwanamputu est vraiment saluée. D'autant plus qu'elle vise, à mon avis, à l'aération, comme il venait de le dire lui-même, à l'aération de la ville et des milliers, et le rendre salubre. Et à mon avis, et non pour garantir, sécuriser nos villes et aussi surtout éradiquer ces phénomènes, comme vous pouvez le voir, ces phénomènes anodins des Kulunas et toutes ses formes. Les solutions sont à rechercher ailleurs. Analysons un peu. Et même alors, le problème des mesures de suivi de cette mesure en RDC, vous allez voir, monsieur Perreux, que cette mesure sera boitée. Ça boite aussi, surtout parce qu'il n'y a pas de suivi. Se débarrasser de ces véhicules, c'est juste synonyme de chasser. Et de les chasser, et ils se réfugieront ailleurs. Et dans leur temps respectif. Et donc, cette solution n'est pas tout à fait durable. Voilà l'analyse deuxième que je fais. Ce phénomène est aussi loin d'être éradiqué, monsieur Pierrot Elamenji, dans la mesure où, heureusement que lui-même, monsieur Pierrot Mwanamputu en a parlé, il y a inconscience professionnelle de la part de certains policiers et même militaires, qui pourtant sont en train de soutenir ou de négocier avec ces terroristes. D'autant plus que je vais poser à monsieur l'invité la question, qu'il me répondra avant que je ne termine mon analyse. D'où viennent les armes que possèdent ces Kulunas? D'où viennent les tenues là? Et pourtant on dit les bandits à main armée. Tout cela vient d'où? Et alors il aura à me répondre éventuellement que j'achève. Voici, à mon avis, ce que j'ai trouvé comme cause de ces histoires-là. Il y a problème, Monsieur Pierrot, des manques d'emploi. Donc, le chômage est à la base aussi de ces histoires. Manque d'encadrement multidimensionnel. La non-prise en charge effective de la population par l'État, si vous allez les découvrir. Il y a aussi grogne sociale causée par l'injustice distributive. Manque de bon leadership dans l'acheminement des solutions. La non-scolarité des enfants, la distribution irrationnelle des ressources naturelles, manque de l'application stricte de la loi. Donc, il y a l'impunité là, si vous m'entendez bien. Il y a aussi manque de sécurité et paix dans les pays. Ainsi alors, pour une solution durable, à mon avis, de ce phénomène Kuluna, Monsieur Perrot, et ses dérivés à travers nos villes, nos territoires, il serait prudent, voilà ce que moi je préviens à mon avis, il serait prudent d'abord de la prise de conscience de la police et de l'armée qui ont la mission de sécuriser la population et l'air bien. Et non, c'est mieux à être cité dans ces cadres ignobles qui causent des problèmes dans la population. Il serait également, il serait mieux aussi de l'interdiction systématique des produits toxiques importés, voulais-je dire, qui contribuent surtout à l'agressivité. Il faut aussi multiplier les stratégies d'incarcération, Monsieur Perrot. Que le gouvernement également arrive à identifier toute la population en octroyant des pièces d'identité y afférentes. Il est également mieux de préconiser et renforcer les mesures sécuritaires et la paix à travers les coins du pays.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel. Marcel, on a suivi et vous avez posé la question qui pourra être répondue par notre invité. D'où viennent souvent les armes? Parce qu'on parle des hommes armés non notamment identifiés. Des fois, ils ont des tenues. D'où viennent les armes qu'ils détiennent ainsi que la tenue? Mais dans la mesure des propositions, vous estimez qu'il faut d'abord qu'on puisse arriver à interdire les boissons fortement alcoolisées. On a déjà fait plusieurs débats autour de ces boissons qui sont fabriquées localement ou même importées, parce que vous estimez que ce sont ces substances toxiques qui sont aussi à la base de l'agressivité. Et ça, c'est l'une des mesures que vous avez proposées au-delà de ce qui a été évoqué déjà tout à l'heure par notre invité. Merci beaucoup, Marcel. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à tout le monde au studio, bonjour à notre invité, le colonel Pierrot Monamputo, votre homonyme, bonjour aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je crois que le compatriote qui venait de parler avant moi a déjà placé toutes les bases sur lesquelles je vais continuer. Je crois que le colonel qui est là à vos côtés nous suit et il sait un peu ce qui se passe chez nous, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est peut-être pas un secret pour lui. Il sait que ce phénomène, Kuluna, prend de l'ampleur, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais même à l'extérieur de la ville de Kinshasa. Parce que dans une ville comme Bandundu, ce phénomène s'impose de plus en plus, surtout dans des lieux de deuil. Parfois, les gens ne savent plus organiser paisiblement leur deuil. Et la nuit, il y a toujours des apparitions brusques de ces gens, ils viennent embrouiller tout le monde et parfois on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Par rapport à la mesure qu'ils sont en train de préconiser là pour évacuer les engins qui traînent dans des coins des routes, tout ça, c'est l'une des étapes qu'on peut déjà saluer. On peut saluer cette étape-là, ce qui est en train de se faire, mais nous pouvons aussi lui rappeler en toute honnêteté que c'est seulement l'une des expressions d'une conséquence d'un problème social mal résolu. Parce que je trouve personnellement qu'on ne peut pas seulement s'attaquer aux conséquences de ce phénomène Kuluna sans pour autant s'attaquer aux premières causes. Et les premières causes, les compatriotes qui venaient de parler avant moi les a bien rappelées. Il y a un déficit de la politique sociale. Les jeunes ne sont pas bien encadrés au niveau de la scolarité. Les jeunes ne sont pas bien encadrés au niveau du logement, les jeunes ne sont pas bien encadrés au niveau de la politique d'emploi, et tant qu'il y aura persistance des injustices sociales, avec des inégalités de salaire, avec des accès difficiles aux soins de santé, avec des accès difficiles au niveau du régime alimentaire, ces problèmes de Kuluna persistera toujours. Ils peuvent nous dire qu'ils sont en train d'évacuer tous ces engins qui traînent dans des coins de route. Mais mon colonel, ce Kuluna-là, la nuit, il y en a qui peuvent aller occuper des étalages des marchés. Donc, ils peuvent facilement vous contourner en préconisant l'une des étapes ils sont aussi rusés, ils peuvent encore préconiser une autre tactique pour opérer sans être inquiétés dans les mêmes coins. Parce que si on évacue les engins, c'est bien. Mais est-ce qu'on va aussi évacuer les étalages des marchés? Je ne pense pas. Il y en a qui se cachent dans des tunnels de rue, il y en a qui se cachent dans des coins, il y en a qui se cachent dans parfois des maisons abandonnées, dans des garages, parfois non loin des bureaux de police. Et personnellement, je trouve que les problèmes doivent être repensés en amont et en aval. Donc, on doit d'abord mettre en application ces articles ayant trait à la gratuité de la scolarité de tout enfant congolais d'un certain âge. Mmh. On doit repenser à la bonne justice distributive. Donc, chaque citoyen congolais doit avoir accès à un logement décent, il doit avoir accès à la nourriture et il doit aussi avoir accès à l'emploi. Mon colonel, on peut évacuer tous ces engins-là. Mais si cette jeunesse-là désœuvrée reste dans des coins de rue la journée, sans avoir quelque chose à manger, sans avoir quelque chose à faire, la nuit, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas? Ils vont continuer à opérer et je crois que le problème n'est pas, ça ne concerne pas que la police. La police fait déjà ce qui lui revient, nous lui disons merci, mais le problème est aussi un problème d'État parce que dans les attributions régaliennes de chaque État qui se veut responsable et qui se le doit, il y a d'abord l'application de tous les articles par rapport à la vie des citoyens. Donc, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a le logement, il y a le travail, il y a la nourriture. Chaque citoyen doit d'abord avoir accès à la vie. Mais tel que nous sommes gouvernés en République démocratique du Congo, avec cette gamme des injustices qu'on décrit tous les jours et pour lesquelles on ne veut trouver aucune solution, si cela n'est pas repensé, donc, on ne fera pas de progrès.
Merci, Franck. Merci, Franck. Vous avez estimé que, c'est comme disait aussi Marcel, si on évacue de véhicules abandonnés, ces personnes peuvent trouver encore d'autres refuges ailleurs. Qu'est-ce qui doit être fait? Et si vous avez souhaité que ça soit une question abordée d'une manière transversale, non seulement la police, mais l'ensemble de la politique sociale et l'encadrement global de la jeunesse. Merci beaucoup, Franck. Alphonse, vous êtes à Arou. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, mais en même temps, bonjour à notre invité. Donc, Pierrot, nous remercions d'abord les porte-parole de la police nationale congolaise qui est avec vous au studio là-bas pour le courage et la détermination dont il fait preuve pour la lutte contre les camps en général. En tout cas, nous lui réservons nos sincères félicitations parce qu'il est du moins, donc il respecte du moins sa mission de la police nationale. Et nous souhaitons que les autres cadres de la PNC lui emboîtent aussi les pas. Alors, par rapport au sujet du jour, M. Pierrot, mettre de côté le reste d'automobiles abandonnés dans certaines villes qui serviraient des cachettes ou des lieux de cachettes pour les clowns, nous pensons que c'est une proposition, une piste de solution, mais qui n'est pas vraiment durable, comme les prédécesseurs l'ont déjà souligné. Nous avons toujours souhaité et nous avons toujours dit que il faut lutter contre les causes et non contre les conséquences, comme mon frère Devienne l'a dit. Alors, nous pensons que nos dirigeants devraient se poser des questions importantes sur qui sème l'insécurité. Et la réponse est sur les jeunes. Alors, pourquoi les jeunes sèment l'insécurité et surtout dans des grandes villes? Alors, d'autres questions que nos dirigeants devraient se poser, est-ce les manques d'encadrement qui fait que les jeunes sèment l'insécurité en ville? Est-ce la pauvreté? Est-ce les manques d'emploi? Ou encore, il y a une main-d'œuvre? Donc, plutôt, qu'est-ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a une main noire qui incite ces jeunes à se comporter ainsi? Alors, nous pensons que en posant toutes ces questions-là, on peut comprendre que le phénomène Kuluna a des bases, soit des bases solides, soit des bases faibles. Pour nous, Monsieur Pierrot, nous pensons que mettre fin à cette situation, c'est tout simplement créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, et aussi sanctionner sévèrement ceux-là qui ne vont pas respecter les les textes de
merci, merci pays, beaucoup. Merci donc, beaucoup, Alphonse. Vous estimez d'abord qu'il faut une solution durable, hein, et doit passer par un certain nombre de questions. Qui sont-ils? Pourquoi ils le font? On identifie les causes et alors on peut trouver des solutions plus durables. On va écouter Jérémy qui est à Lubumbashi, revenu dans ce studio pour donner la parole à notre invité. Jérémy, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour également à notre invité là-bas, là avec vous. Mais je pense que Monsieur Pierrot, hein, ce phénomène dit que l'on a tant de cria qu'il y a ça, mais constitue au jour d'aujourd'hui un virus très dangereux. Je ne pense pas que ce virus est resté seulement à Kinshasa, ça se propage sur toute l'étendue de la République. Je peux vous donner ici un exemple. Moi, je suis à Lubumbashi. Vraiment, nous assistons vraiment à une situation déjà déplorable, jamais vécue au jour d'aujourd'hui. Ça fait, il y a 5 ans, on n'a pas connu des situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que l'alternative qu'évoque Monsieur le Colonel n'est pas à négliger. Je pense qu'il faut plus évacuer tout ce qui constitue un danger social au milieu des gens. Vous n'avez qu'à voir, moi je suis du côté Lubumbashi. Quand vous allez par exemple du côté Rouachi, vous allez voir qu'il y a un conteneur qui est abandonné quelque part là-bas, où il y a ces gens-là qui sèment la terreur pendant la nuit, qui tortillent, qui font du n'importe quoi. Ils sont, qui les nourrit en armes? Je me pose la question. Qui est en train de distribuer des armes à ces jeunes gens pour pouvoir semer la panique au milieu des gens pendant que les gens sont en train de passer leur nuit précisément? Je pense que c'est un point interpellateur qu'il faut donc parler aux autorités. Ce n'est pas le colonel seul qui doit mettre sur pied cette politique, mais c'est le ministre qui est en charge, je ne sais pas, la défense, qui doit imprimer cette ligne, cette bonne politique, question de mettre sur les rails cet aspect des choses. Sinon, vraiment, on assiste vraiment à une situation très déplorable. Je vois que le problème réside au niveau de la bonne politique au sein du pays et la... Et cette politique, bien sûr, adéquate. Parce que nous n'avons qu'à voir, lorsqu'il y a eu changement un peu au niveau de la tête du pays, à un moment, on se disait, mais l'insécurité commence à partir. Mais lorsqu'il y a eu relâchement, les gens voient que la crise s'accentue encore au moment où il n'y a pas de gouvernement, on voit que le même problème revient encore à nouveau.
Merci. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Il faut aller un peu plus loin, comme vous l'avez dit, Jérémy, faire des recherches, savoir d'où... Et ces bandits trouvent-ils des armes? D'ailleurs, on a fait les débats, hein, il y a eu 2 semaines sur la question de la criminalité à Lubumbashi. 081-890-4969. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Conférence de presse bimensuelle des Nations Unies. Suivez en direct de Radio Capi la conférence de presse bimensuelle des Nations Unies, mercredi de 11h15 à 12h. Rediffusion le soir à 22h et jeudi à 14h15. L'actualité des Nations Unies en long et en large sur la fréquence de la paix.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons dans ce studio à notre invité, colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Vous avez suivi les comparteurs qui sont exprimés. Vous avez noté ensemble avec moi, je crois, les grandes lignes de leurs préoccupations. Comment vous pouvez réagir?
Oui, merci beaucoup. Je commence par saluer Marcel Aluisa. Pour dire que j'ai bien suivi ces préoccupations, parce que la question qu'il m'avait posée, c'est de savoir où est-ce que les criminels retrouvent les armes ainsi que les uniformes pour les porter et aller insécuriser la population la nuit. Je vous ai tout simplement dit qu'à un certain moment, à Kinshasa, comme à travers les pays, les commissions sont passées pour procéder à la numérotation des armes. Et c'est une opération qui était même diffusée au niveau des grands médias de la place. Et puis, où est-ce que le criminel s'alimente en armes et en tenue? Certainement, ce sont des déserteurs qui, quand ils désertent nos rangs, ils emportent tout ce qu'ils ont. Et sans compter la circulation incontrôlée des armes de guerre et munitions. Là, c'est une des causes endogènes, n'est-ce pas, de la configuration éthiologique, les causes qui sont en amont, qui font que cela alimente la criminalité. Lorsqu'on parle, je vois les préoccupations de Franck à Vienne. Il dit que nous sommes allés résoudre les conséquences et non remonter aux causes.
Lui, il estime qu'il faut des mesures transversales au niveau de la société.
Oui, tout à fait, oui. Et là, pratiquement, lorsqu'on parle de configuration éthiologique, nous avions pensé, n'est-ce pas, à dire que c'est vrai que dans le cadre de l'apprentissage de notre jeunesse des Hébreux et des enfants abandonnés, il n'y a pas longtemps, l'autorité a pensé à l'Institut national de préparation professionnelle, qui est l'INPP, et qui a pour mission de perfectionner, de recycler, de former les travailleurs pour améliorer les rendements. Ça, c'est du côté, n'est-ce pas, des travailleurs, mais aussi de donner une formation technique aux désœuvrés et autres enfants défavorisés. Et nous avons pensé que pour ce deuxième volet de sa mission, que le gouvernement puisse subventionner l'apprentissage de ces métiers aux désœuvrés et autres enfants défavorisés pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas, un métier. Et que l'autorité aussi puisse penser à créer beaucoup d'écoles de professionnelles, hein, au lieu, n'est-ce pas, de multiplier les écoles à section à caractère général. Mais si on pouvait vraiment, dans les différentes provinces, les 26, augmenter les écoles à caractère professionnel. Et puis, comme l'avait dit Franck à Vienne, c'est de veiller à ce que l'enseignement primaire soit obligatoire et gratuit, conformément au prescrit de l'article 43 in fine de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Et lorsque je viens prendre les préoccupations d'Alphonse et puis de Jérémy, je voudrais tout simplement dire que nous devons en principe la gestion de la criminalité ou de ces phénomènes doit se faire à deux niveaux. Parce que pour l'instant, nous sommes en train de faire la gestion de la recrudescence. C'est-à-dire les phénomènes qui étaient en train de dormir, qui se réveillent et puis qui commencent à s'enflammer. Ça, c'est la gestion de la recrudescence. Mais qu'est-ce qui est faisable d'habitude dans de pays développés? C'est de mettre en place la politique criminelle. Une politique criminelle, c'est une politique où on définit les stratégies à prendre par rapport, n'est-ce pas, à un phénomène. Les stratégies juridiques, on met des lois, n'est-ce pas, les plus fortes possibles pour lutter contre les incivilités ou la recrudescence et contre la délinquance. Des stratégies sociales, comme on venait de le dire ici, n'est-ce pas, de la réinsertion, définir dans cette politique criminelle les stratégies préventives, quelles sont les actions préventives qu'il faut prendre, définir maintenant les actions répressives, et allouer des moyens financiers dans les lois des finances. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes qui doivent être pris en charge par la police du 1er janvier au 31 décembre. Mais ils doivent trouver des fonds dans les lois des finances exécutées. Quand les parlementaires entrent au niveau de leur session, le gouvernement doit leur donner, au niveau de la politique criminelle, déjà la quotité qu'il faut réserver pour lutter contre ces phénomènes ici. Alors, cette prise en charge sera prise du 1er janvier au 30 décembre. Voyez-vous, en dehors des activités quotidiennes de la police, mais on s'occupe justement de ces phénomènes-là, parce que c'est défini dans la politique criminelle. Alors, c'est dans ce cadre-là que, lorsque c'est défini et qu'il y a un budget conséquent dans les lois de finances, voté par les parlements, une loi que nous appelons la politique criminelle bien définie, on ne va pas s'attaquer aux conséquences qu'est la recrudescence de la criminalité. On va s'attaquer aux causes.
Aux causes. Il y a moyen de prévenir, oui.
N'est-ce pas? Donc voilà au moins de façon ramassée comment je peux répondre.
Mais on sait qu'il y avait, il y a eu des problèmes quand on avait lancé l'autre fois l'opération les Kofi. Il y a eu des voix qui se sont levé à gauche, à droite, mais on sait quand même qu'il y a eu de résultats palpables, parce que beaucoup de jeunes, on a vu, moi j'ai vu dans mon quartier comment tous les jeunes étaient devenus propres, ils ont commencé qui devenir coiffeurs, qui commençaient à travailler, mais à la fin, quand il n'y a pas eu de trac, apparemment, cela est revenu. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cette opération, même s'il y avait quand même des cas, on avait estimé qu'il y avait des cas de dérapage, ça pouvait être déjà comme une base qui pouvait partir, mais quitte à savoir comment l'autorité politico-administrative pouvait aider la police à renforcer ces travaux qui avaient déjà été amorcés.
Donc Pierrot, ça c'est la gestion de la recrudescence, qui est différente de la gestion d'une mise en place d'une politique criminelle. Mm-hmm. Ce sont des gestions très différentes. La gestion de la politique criminelle, de la politique criminelle est très différente de la gestion de la recrudescence. Mm-hmm. L'opération Likofi était une gestion de la recrudescence. Nous sommes attaqués aux conséquences.
Pour spontané d'ailleurs.
Et puis, la criminalité s'est déplacée dans l'espace. Et quand il y a eu relâchement, la criminalité est revenue.
Et c'est là qu'il faut penser à cette politique pour gérer les causes.
Nous n'avons pas de choix que de revenir. Cette politique doit être émise par notre ministre des tutelles, qui est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit mettre ça au gouvernement avec tout ce que je venais de dire, avec toutes ces stratégies. Et c'est alors que nous, on va définir les priorités dans cette politique criminelle. Et nous, la police, nous allons nous attaquer à ces priorités-là.
Mais alors, avant de donner la parole aux trois auditeurs qui sont là, si on revient à cette question d'évacuation, parce qu'il est au centre de notre débat, des vieux véhicules, tout ça, il y a des points, parce que vous avez dit la cartographie des points, il y a par exemple les points du rail, c'est au niveau des Lingwala, un marché où il y a beaucoup de... C'est un marché. Franck disait tout à l'heure que les gens vont se cacher dans les marchés. Et là, vous avez non seulement des vieux véhicules, mais vous avez aussi des carrosseries, des véhicules. Il y a des vendeurs, des barres de fer. Mais qui ces barres de fer eux-mêmes ne sont pas assez surveillées, parce que ces barres de fer, la nuit, peuvent se transformer, n'est-ce pas? C'est juste à côté du camp Lufungu, là. Ces barres qui sont vendues, qui sont abandonnées par les vendeurs la nuit parce qu'il n'y a personne qui les contrôle, ça constitue un danger selon les habitants. Mais alors, pour rendre encore cette évacuation plus facile, ces marchés pirates, tous ces endroits qui sont assez aussi, et il fait sombre aussi dans ces endroits la nuit, y a-t-il aujourd'hui des dispositions spécifiques prises par la police par rapport à ça?
Je crois que aujourd'hui, avant la fin de la semaine, le commissaire provincial va s'entretenir avec ses hommes pour lui donner des orientations précises par rapport, n'est-ce pas, à cette question-là.
Exact.
Je ne voudrais pas dévancer en ce moment le conseil provincial. Je voudrais que la communication soit faite tout d'abord.
Quand tu auras déjà les informations, la communication qui sera transmise par l'autorité.
Voilà, c'est alors quand je viendrai pour donner le plus ample détail. N'est-ce pas? Je ne voudrais pas ici...
Parce que les auditeurs nous ont écrit non seulement Lingwala, le marché au niveau de rail. Il y a par exemple la route Bekatef. Non loin de la maison communale de Massina, boulangerie qu'on appelait Bekatef, la route est encore petite, il y a il y a beaucoup de remorques, les véhicules encombrent les avenues, les gens ne savent pas accéder dans leurs maisons, c'est presque les murs des maisons qui sont cachés par le nombre des véhicules. Et avec la population qui a ces niveaux-là, un auditeur nous a écrit pour dire que c'est là aussi, c'est un endroit où des jeunes gens se cachent, ils agressent même des filles, et puis ils rentrent se cacher dans ces véhicules au niveau de Massina Bekatef.
Voilà.
Et ça va être vraiment une grande préoccupation.
Tout à fait, oui. Oui, vous savez, en venant ici, j'ai reçu un coup de fil parce que les auditeurs savaient que je venais. Ils m'ont dit, la police, au lieu d'évacuer des épaves de véhicules, s'attaque à évacuer les véhicules en stationnement. Voyez-vous? Bon, ça, ce sont des débordements qu'il ne faut pas accepter. Je crois que le conseil provincial s'attaquera à cela. Et les policiers ne sont pas autorisés à aller évacuer des véhicules qui sont en stationnement.
Ce sont des véhicules abandonnés.
Ils ne constituent pas des véhicules abandonnés et non des lieux d'asile ou de retranchement.
Merci. Voilà. On va écouter Jonas Yetakananga gérer sa Kamina et son ville à Lubumbashi. Jonas, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, colonel Malamputu.
On vous écoute.
Oui, merci. Nous commençons d'abord par saluer le travail de Titan abattu par le colonel Malamputu pour évacuer les carrosseries des véhicules qui servaient d'abri aux faiseurs. Mais nous pouvons peut-être noter ce qu'a fait le colonel. Bon, c'est comme, par exemple, un infirmier qui est en face des malades souffrant de l'asthme d'Afrique et l'infirmier demande au malade, par exemple, de prendre un sachet de polygel, et après que le malade a avalé ça, il sent un peu de soulagement, et l'infirmier se félicite d'avoir guéri le malade. Alors que la maladie n'est pas guérie, ça c'est un calvaire. Donc, je voudrais dire quoi par là. À mon sens, je pense que les prédicateurs sont déjà évoqués. La meilleure façon pour moi de lutter contre ce fléau, ce phénomène, ce n'est pas détruire les abris. Bon, détruire les abris, quand on a enlevé les véhicules, ces gens-là ne vont pas ne vont pas croiser les bras. Ils vont chercher d'autres abris. Ils vont chercher pour dormir. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer même, par exemple, à utiliser des paillotes, à utiliser des barres, des vérandas, de passer les maçons. La seule façon pour moi de lutter complètement contre ces gens de cafés que nous vivons dans le pays, pas seulement à Kinshasa, même à Canara, c'est par exemple, comme beaucoup l'ont déjà dit, c'est trouver de l'emploi pour ces gens-là. Bon, je vais peut-être proposer au colonel, il y a un service de recrutement des jeunes gens dans le service des forces de la police. Comment ne peux-tu pas suggérer à lui qui est pour la ville de Kinshasa de recruter ces gens-là dans l'armée ou dans la police pour servir au pays? Parce que dès lors qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ne vont pas se fatiguer. Ils vont fabriquer d'autres stratégies pour trouver des d'abri. Un exemple similaire. On a vu ça à Kananga. Et là, il a relayé dans les informations de midi du matin. Il y a eu des jeunes gens qui ont marché. Le but, c'était pour aller.
Dommage, on est en train de perdre Jonas. Jonas estime que comme il y a un problème d'emploi qui se pose, pourquoi ne pas recruter beaucoup de jeunes dans la police et dans l'armée et les former parce qu'il n'y a pas d'emploi? Mais est-ce qu'il faudrait-il substituer tout simplement les recrutements pour dire non, voilà, vous les criminels, les colonels, nous allons vous mettre dans l'armée et la police comme solution de substitution? Non. Alors ça aussi, c'est un travail planifié pour recruter les jeunes dans l'armée et dans la police. Et vous avez évoqué tout à l'heure la marche à Kananga, c'est ce que les gens réclament, que dans le cadre des activités de route qui se font, qu'on a lancé les travaux à Kananga, qu'on recrute plus les Congolais à l'office de route et l'OVD plutôt qu'y recourir aux Chinois. Merci beaucoup. Jires, vous êtes à Kamina. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Merci Pierrot et Lamé. Je salue aussi notre invité qui est sur le plateau. Je voudrais parler par rapport à la bonne mesure qui est prise par rapport à l'évacuation des véhicules, des carcasses dans la ville pour lutter contre le phénomène Kuluna. Notre invité a dit que le Kuluna trouve refuge dans de carcasses et aussi, il y a aussi d'autres endroits qu'il fréquente tels que le marché. C'est une mesure que je salue avec beaucoup plus de considération. Et encore la lutte contre le boisson. J'ai entendu l'un de mes prédécesseurs qui a parlé par rapport à la lutte contre la boisson alcoolique. C'est aussi un facteur qu'il faut lutter contre pourvu que nous puissions arriver à lutter contre le phénomène Kuluna. Il y a aussi l'importation, encore la fabrication des produits qui sont toxiques ou encore alcooliques, ce qui contribue à l'agressivité de Kuluna. Alors s'il y a des mesures qu'on devrait prendre pourvu que ces derniers puissent être au moins maîtrisés. Et aussi, il y a un problème que je voulais souligner par rapport au sujet du jour, parce qu'il y a un prédécesseur qui a posé la question de savoir pourquoi les Kuluna, où est-ce que les Kuluna trouvent, ou encore les bandits, mais armés, trouvent les armes et aussi les tenues de la police. Parce que nous sommes en train d'assister à un problème ces derniers temps. Nous voyons des Kuluna munis des armes. Donc, s'ils ont des tenues de la police, alors nous nous posons des questions. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes et ces tenues, s'il y a moyen que notre invité...
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jires. D'ailleurs,
Alors, il y a aussi par rapport au chômage. C'est peut-être le chômage qui serait un facteur qui est en train de faire régresser la situation. Si on prenait au sérieux cette situation, c'est un facteur qui est en train de régresser. Si on payait, par exemple, comme on l'a fait ailleurs, on peut payer les chômeurs. On le fait, et peut-être on peut arriver au résultat. Peut-être c'est un problème des choses.
Merci beaucoup.
Le phénomène Kuluna peut parfois aller en avant. J'espère que c'est un peu ça ce que j'avais à dire, Pierrot.
Merci beaucoup, Jires. Vous êtes revenu sur la question de où est-ce que le criminel trouve les armes. L'invité venait de répondre à cela tout à l'heure. On va écouter Sonville et terminer avec Karl qui est à Kinshasa. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour. Sonville, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis lignes de connexion avec Lubumbashi. On retourne ici à Kinshasa. Karl, merci de nous avoir contactés. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité, le colonel Pierre Mwanamputu.
On vous écoute.
Oui, j'ai voulu contribuer à cette émission par rapport aux dispositions que la police est en train de prendre. Je vais leur donner les éléments importants qui concernent un arrêté royal qui date de 1898 par rapport à tout ce qui est mis sur la voie publique. Donc je passerai à l'inspection provinciale déposer ça auprès du général pour qu'il puisse utiliser cet arrêté là, parce que jusqu'à aujourd'hui cet arrêté n'a jamais été abrogé. Par rapport aux autres phénomènes, le phénomène Kuluna, ça c'est l'échec total de deux régimes successifs, le régime Mobutu, le régime Kabila, par rapport à leur politique sociale. Lorsqu'on prend la gestion d'un État, on doit d'abord commencer à planifier des bonnes politiques sociales afin d'éviter des phénomènes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il y a la défaillance totale des politiques sociales en République démocratique du Congo. On ne sait pas d'ailleurs, nos dirigeants, quand ils accèdent au pouvoir, ils ne savent même pas à combien nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes combien de Congolais qui doivent bénéficier les services de l'État. Et le président nouvellement élu doit commencer par là. Je crois qu'il y a l'un des intervenants qui a fait allusion à la carte d'identité. On doit nous identifier, nous Congolais. Nous sommes combien? Et comment est-ce qu'un dirigeant peut planifier des bonnes politiques s'il ne connaît pas le nombre de personnes qu'il doit servir par rapport à ces politiques-là? Donc voilà l'importance des planifications et des politiques sociales pour enfin éviter les problèmes en rapport avec la criminalité. Cet problème de Kuluna a commencé depuis les années 2003-2004. À ce moment-là, nous sommes à l'université. Nous avons travaillé le TFC sur le phénomène Kuluna, où on parlait à l'époque des groupes des Boulafa, des Banate. C'était des groupes difficiles, mais parce que l'État n'avait pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir arrêter ça dans l'embryon. Mmh. Et voilà, aujourd'hui, ça explose.
Merci.
Ça dépasse maintenant l'État à pouvoir trouver encore des solutions, je donne par rapport à ça.
Merci beaucoup, Karl. Je crois que Sonville, c'est bon. On va terminer avec vous, Sonville, le temps que notre invité puisse ramasser l'ensemble des préoccupations. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bon, bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs. C'est un problème très, très, très désépiné en ce qui concerne les sécurités, surtout ici à Lubumbashi. Nous vivons un Far West. Mais il faudrait quand même saluer les mesures qui sont prises au niveau de Kinshasa. Il faudrait que ces mesures-là soient aussi pratiquées au niveau de Lubumbashi. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelques propositions que nous pouvons émettre. Parce qu'il faut d'abord améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme. Au-delà de ça, changer même les couleurs des tenues. Parce que ces gens-là qui viennent agresser, qui commettent ces gaffes-là, s'habillent en tenue de police, en tenue de militaire. Où est-ce qu'ils trouvent ces tenues-là? Au-delà de ça, il faut demander à ce que notre gouvernement puisse construire des casernes. C'est-à-dire que retirer tous les militaires et policiers qui logent dans la cité. Et puis, pour qu'il y ait encore ce nombre de militaires, il faudrait que la police puisse retirer tous les éléments qui sont commis à la garde des civils, des Chinois et consorts. Nous avons besoin de la sécurité. La mission dévolue à la police, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Et là, il y a le service des gardiens qui sont là, qui peuvent s'occuper de la sécurité des individus. Et puis, installer quand même des sous-siats dans tous les quartiers. S'il y a des sous-siats dans tous les quartiers, la population va se sentir
Merci.
Quand même sécurisée.
Merci. Merci beaucoup, Sonville, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, Sonville. Vous avez insisté sur cette question d'augmentation d'effectifs, on en a évoqué, mais aussi l'éloignement des casernes de la population. Vous estimez qu'il serait mieux que les camps qui abritent, les camps militaires et les camps des policiers soient éloignés des quartiers. Merci beaucoup. On revient à vous, colonel Pierrot Mwanamputu, parce qu'on a suivi les uns et les autres. Peut-être un mot par rapport aux questions qui sont revenues. Il y a beaucoup de questions qui ont été déjà répondues. Mmh. Et puis aussi, ça va nous permettre de conclure cet échange.
Mmh. Je crois que j'ai commencé par Jonas Akananga, et qui voudrait que nous puissions endiguer ce phénomène-là par le recrutement de tous ces criminels, les reverser à la police, c'est ça, c'est son souci. Mais que c'est vrai que c'est une proposition de notre invité ou de notre intervenant, mais il doit reconnaître qu'au niveau de la police nationale congolaise, le recrutement a lieu par voie de concours et interne ou externe. Hein. C'est par rapport, n'est-ce pas, à ce recrutement-là. Il y a aussi des conditions générales et particulières qu'il faut remplir. Donc on ne vient pas déverser ceux qui sont sur la rue à la police, mais ils passent par le tamisage que nous avons appelé le concours. Bon, on verra bien si, parce que chez nous, même si on était criminel, quand on vient chez nous, on vous redresse, hein, et vous devenez citoyen correct, mais il faut passer par le concours.
Oui.
Seront-ils habilités, n'est-ce pas, à passer le concours au niveau de la police et réussir, ça c'est une chose. Et au niveau de notre frère Karl, qui a parlé la politique sociale planifiée qui est défaillante. Ben, ça, c'est au niveau de l'homme politique. Nous sommes au niveau de la police, l'exécutant. Nous sommes là pour exécuter les ordres, les lois et règlements de la République. Mais je renvoie et sa préoccupation à la configuration éthiologique, qui sont les causes endogènes et exogènes, hein, où on parle de la situation, la pauvreté, le chômage, la misère, et pourquoi pas la dissociation parentale et beaucoup de choses. Et même au niveau de les institutions empiriques de répression qui sont la police ainsi que le parquet, qui de temps en temps sont défaillantes, n'est-ce pas? Parce que nous, nous récupérons les couloirs, nous envoyons au niveau du ministère public, de l'Office du ministère public. Aussitôt que nous avions tourné les dos,
ils ont la liberté provisoire et
puis ils viennent récupérer, ils viennent pour se moquer des OPJ, pour dire, écoutez, je suis venu récupérer ma ceinture que j'avais oubliée ici ou ma paire de babouches. Voyez-vous? Donc, ce sont des cas aussi qui nous insécurisent. Voyez-vous? Donc, ce sont des défaillances aussi qu'il faut, de temps en temps, quand on se les voit, qu'on corrige ça entre nous. Parce que si un criminel qui a été récupéré par la population, nous l'avons récupéré, nous l'avons envoyé au niveau du ministère public, et aussitôt il ressort sur la chaussée, il vient nous enquiquiner pour demander ses effets, vous pensez que la police aura encore la possibilité d'aller le récupérer? Bon, voyez-vous ce que ce sont aussi, n'est-ce pas, des actes qui sont à décrire au niveau des institutions.
Et pour terminer, parce que là on est coincé par le temps, Sonville évoquait tout à l'heure le rapprochement de casernes avec le quartier habitable, ça pose souvent problème.
Non, là c'est un problème de l'assainissement de l'environnement, le travail du policier ou du militaire. Et éloigner le camp de police ou des militaires en dehors, n'est-ce pas, ou à la périphérie, et le mettre à la périphérie de la ville. Ce n'est pas le travail de la police, c'est le travail du gouvernant. Donc, c'est une question qui doit être posée, n'est-ce pas, au niveau du gouvernant, pour voir quelles sont les différentes mesures à prendre. Mais nous, les policiers, nous sommes appelés à vivre avec la population. Peut-être qu'on parlerait des forces de défense, qu'il faut un peu éloigner pour les mettre à un niveau d'affaires. Mais nous devons vivre avec la population. D'ailleurs, nous, on n'est pas cantonnés, hein, on vit avec la population. C'est comme ça que les sociétés et SIAT doivent être implantées à des lieux à force criminalité. Je l'ai dit au début de l'émission qu'il y a des escadrons de mobiles d'intervention qui seront implantés dans des lieux à force criminalité afin d'endiguer le mal ou carrément le déplacer. Voilà ce que j'avais dit au début.
Et un mot pour conclure cet échange.
Bon, je demanderais seulement à la population de nous aider à nous situer les différentes cartographies des véhicules abandonnés, des épaves, des garages pirates, et pourquoi pas aussi nous indiquer les différentes embarcations ou baleiniers qui sont entreposés les longs de buts privés liés de prédilection où se cachent les différents criminels.
Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu dans cet échange le colonel Pierre Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Merci à Alain Go qui est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Gilles Ngembo et Nico Kalamba et Piro et la Meji. C'était pour moi le réel plaisir de vous le présenter. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Il nous reste à vous souhaiter une agréable journée en compagnie de Radio Capi. Merci. Au revoir.